Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halid Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 75 radios et 3 télévisions à travers le pays. Ce soir, nous allons aborder un an de l'accord politique. Quel bilan ? Et nos invités sont Hamidou Doumbia du parti ILMA, Mamadou Diko du parti URD et au téléphone, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat.
Le Grand Dialogue.
Sur les réseaux sociaux, Sogodogo Diakali a dit le bilan le plus nul de toute l'histoire du Mali car cet accord n'a rien servi. Êtes-vous d'accord avec lui, Hamidou Doumbia ?
Bon, je remercie d'abord Studio Tamani et tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est, c'est un peu, ça doit être quelqu'un qui doit être un peu fâché. Mais je trouve que dans tout bilan, il faudrait relativiser et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Moi, je trouve que l'accord politique est venu dans un contexte très difficile. Il y avait un contexte sécuritaire très grave et puis il y avait une sorte d'insurrection populaire qui a amené le premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga à démissionner ou même à être démis de ses fonctions. Et le Front social était en ébullition. Et c'est dans ce contexte que l'accord politique de gouvernance avait été signé. Et ça s'est avancé aussi c'est tard. Moi, ce que je peux tout simplement dire, quand même, ça a contribué à baisser le climat social. Ça a permis aujourd'hui de mettre fin à la prorogation des mandats des députés parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même pu organiser les élections législatives malgré que il y a vraiment beaucoup de choses à reprocher dans l'organisation de cette élection, mais quand même, nous avons quand même une assemblée nationale.
Et on va revenir en plus de détails sur les avancées. Vous, Mamadou Diko, êtes-vous d'accord avec M. Sogodogo qui pense que c'est le bilan le plus nul que le Mali n'ait jamais obtenu?
Je voudrais aussi à mon tour vous dire bonsoir et merci de l'invitation. Saluer aussi vos auditeurs et téléspectateurs. Oui, je suis un peu nuancé par rapport à l'affirmation de M. Sogodogo. Je crois que l'accord politique de gouvernance n'a pas comblé, certes, toutes les attentes, mais il y a eu un certain nombre de choses qui nous permettent de ne pas avoir une affirmation pareille. Mais je voudrais, avant de donner mon sentiment par rapport à cet accord, faire un rappel historique. Vous savez, l'accord politique de gouvernance est d'abord une initiative de l'URD, du FSD, de l'opposition de façon générale. C'est nous, à la faveur de la démission et du contexte particulier difficile qui était celui du pays à l'époque, à la faveur de la démission du Premier ministre Soumaïlou Boubé, qui avons estimé qu'il était indispensable que les forces politiques et sociales significatives de ce pays se retrouvent autour du pays. À l'époque, nous avons parlé d'union sacrée pour qu'ensemble nous endossions la difficile gestion des sorties de crise multidimensionnelle à laquelle le pays était confronté. Nous avons initié un projet que nous avons soumis au président de la République. Il a lui-même rencontré le chef de file de l'opposition. Je crois qu'ils ont eu beaucoup d'échanges à l'issue desquels quelque chose a été mis sur papier. Appelé justement accord politique et feuille de route. Malheureusement, tout ce qui avait été convenu et qui avait été mis dans ce document pour consacrer le semblant de consensus, en tout cas le début de consensus qui était là, n'a pas résisté. La grande surprise, la dernière mouture qui est sortie, a enlevé la quintessence, la substance de tout ce qui avait été convenu. C'est pourquoi vous constaterez que mon parti et beaucoup d'autres partis membres du FSD n'ont pas souhaité signer l'accord parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans ce qui avait été en définitive arrêté par le gouvernement à l'époque, piloté par le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Donc nous n'avions pas été partie prenante de cet accord pour des raisons que je viens d'expliquer. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que cet accord a permis l'organisation du dialogue national dit inclusif. En vérité, il ne l'a pas été. Inclusif, il ne l'a pas été. La preuve, beaucoup de pans entiers de notre pays n'ont pas pris part. Mais le dialogue a eu lieu. Il y a eu des recommandations, dont l'organisation...
Donc vous êtes satisfait aujourd'hui de l'obtention de cet accord politique?
Je ne le dirais pas ainsi. Je pense que ça a été une occasion ratée. On aurait dû mieux faire.
D'accord, l'accord et on va y revenir plus en détail. Maître Abdourahmane Touré, vous, quel bilan faites-vous de cet accord politique au Mali?
Bonsoir à vous, M. Touré, bonsoir à Doumbia et à Diko, et à tous les auditeurs de Studio Tamani. Voilà, mais moi, je ne vais pas revenir sur les contextes historiques brillamment décrits par mes prédécesseurs. Je vais simplement rajouter juste un ou deux petits points sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne l'accord politique de gouvernance dans sa conception et dans son idée même de base. Et quand on parle d'accord politique de gouvernance, dans le contexte où on se trouvait, il s'agissait dans l'idéal de pouvoir faire ce qu'ils ont appelé tout à l'heure l'union sacrée. Et cette union sacrée, malheureusement, elle n'a pas pu être faite. Donc, l'accord n'a pas pu rassembler les forces politiques, dans leur ensemble en tout cas, les plus grandes forces politiques n'ont pas été dans cet accord politique de gouvernance. Je pense qu'à l'époque, le premier responsable du parti Élément avait insisté sur le fait qu'il faille tendre encore la main à Soumaïla Cissé, l'honorable Soumaïla Cissé, pour qu'il vienne, parce qu'il représente quelque chose dans ce pays-là. Et la sortie de la crise également était un peu aussi conditionnée à une grande mobilisation de toutes les forces vives. Donc sur ce plan, l'accord politique de gouvernance n'a pas réussi à produire ce qu'on a souhaité, hein, c'est-à-dire l'union sacrée des forces politiques et des forces vives autour de cet accord. Maintenant, l'accord lui-même, en ce qui concerne ses objectifs, je pense que le bilan, il est relativement mitigé. Et quand on regarde le chapelet de mesures et la structuration même de l'accord, on se rend compte simplement qu'il y avait des questions qui n'avaient pas leur place et qui ne pouvaient pas être résolues dans le cadre d'un accord politique de gouvernance. Donc à l'évaluation, on ne peut pas les retrouver au rang de l'actif, notamment les questions relatives à la préservation de l'environnement et tout ça. Bon, je pense qu'on a mis énormément de choses pour pouvoir donner l'impression qu'on s'est intéressé à toutes les questions. Et comme on le dit, qui embrasse mal, enfin voilà, qui embrasse trop est très mal. Et il y avait des questions qui ne pouvaient pas être, en tout cas, solutionnées à travers un accord politique de gouvernance qu'on a mis dans cet accord-là. Et ces questions, on peut les mettre au rang du passif de l'accord. Et mais en ce qui concerne les questions principales et les questions brûlantes de l'actualité, et il faut simplement reconnaître que, on a obtenu des éléments qui peuvent être appréciés de manière...
Avant cela, maître, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux objectifs pour lesquels cet accord a été signé? Vous avez parlé de l'union sacrée.
Voilà, il y avait l'union sacrée. Il y avait également des missions spécifiques qui avaient été fixées en ce qui concerne les questions de réforme politique institutionnelle. Il y avait des questions relatives à la lutte contre la corruption, la moralisation des finances publiques. Il y avait des questions qui étaient relatives aux aspects sécuritaires, notamment ce qui se passait dans le centre. Il y avait des questions relatives à l'emploi. Et il y avait des questions relatives au climat social. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait énormément de questions. Et l'accord avait même l'allure pratiquement d'un programme de gouvernement pratiquement. Donc toutes les questions, en tout cas, qu'un pays anormal comme le nôtre peut connaître, étaient pratiquement dans cet accord politique de gouvernance avec une durée de un an. Donc il était difficile vraiment d'atteindre tous ces objectifs dans un délai aussi court. Et parce que, comme on le dit également, le fait d'avoir mis beaucoup de choses a pu également donner l'impression que finalement on va essayer et ça crée des tâtonnements. Mais dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte que les objectifs spécifiques, en tout cas ce qui concerne les questions politiques, les questions d'organisation des élections, ont été le plus souvent mises sur la table au détriment des autres questions périphériques qui ont été rajoutées juste pour la beauté de... pour la beauté de l'accord.
D'accord.
Donc, en ce qui me concerne, je pense que, vu de là où on est parti, le bilan n'est pas si mauvais que ça, d'accord, si on se réfère au point de départ.
Hamidou Doumbia était en train d'évoquer certains des points positifs de cet accord politique.
Oui, moi, ce que j'ai retrouvé, nous pouvons d'abord regretter la non-participation de l'URD qui aurait encore rendu le dialogue ou même l'accord encore plus inclusif. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'organisation du dialogue national inclusif qui a permis aux Maliens de se retrouver, de se parler et qui a abouti à des recommandations et des résolutions fortes. Ces recommandations et ces résolutions peuvent être des outils pour le gouvernement actuel, pour le gouvernement à venir, pour essayer de sortir le pays de la crise. Quand même, il y a quand même au niveau du centre aussi, nous avons quand même ils ont pu négocier certains accords qui ont pu amener l'accalmie dans certains endroits. Au moment où le Premier ministre Boubou Cissé venait, il faut reconnaître que le centre, c'était encore plus... l'insécurité était encore plus grande au centre qu'aujourd'hui, malgré que cette insécurité existe toujours. Mais ce qu'il faut surtout signaler pour moi, c'est quand même les grèves qu'on a pu déjouer. Quand même, il y avait plusieurs grèves qui étaient, préavis de grèves qui étaient déposés, mais quand même qui n'ont pas pu avoir lieu, malgré que quand même la crise scolaire aujourd'hui persiste toujours et que le Premier ministre même n'est pas parvenu à avoir un accord avec les syndicats de l'éducation. Mais quand on prend l'accord politique, c'était, l'objectif c'était de sauver l'année scolaire 2018-2019.
Est-ce le cas ?
Il a pu sauver l'année scolaire 2018-2019. Mmh. Maintenant, 2019-2020, l'accord qui avait été signé en 2018, ça n'a pas été appliqué. Donc on a pu régler le problème à court terme. Mais 2019-2020, les problèmes ont encore ressurgi et nous sommes encore dans la crise. Donc, quand on veut l'évaluer par rapport à l'accord politique de gouvernance, c'était de sauver l'année de 2018-2019. Effectivement, ils ont pu sauver cette année scolaire-là, mais aujourd'hui, nous sommes encore dans les problèmes. Donc, quand on veut évaluer le gouvernement en tant que tel, on peut dire que sur ce plan, ça n'a pas beaucoup marché. Mais quand on l'évalue sur la base de l'accord politique, c'est 2018-2019, là, ils ont pu sauver l'année scolaire quand même. On a pu faire les examens et les élèves sont retournés à l'école en début d'année. Mais ce qui est important, c'est que le dialogue a pu se tenir et le dialogue a abouti à des recommandations. Dans l'accord politique, il était convenu que le dialogue allait faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi des recommandations et des résolutions du dialogue. Jusqu'à aujourd'hui, ce comité n'a pas été mis en place et on est en train de tâtonner dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue. Et après tout cela, on parle de la relecture de l'accord pour la paix parce que les uns et les autres parlent de l'organisation des élections législatives. C'est vrai, on a pu les organiser. Mais après cela, quand même, on parle de la relecture de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a mis aucun dispositif en place pour essayer de quand même donner un début de solution à cette relecture-là. On est en train de nous sortir des arguments sur la réforme institutionnelle et politique, alors que quand on prend, on se fie à l'esprit du dialogue, des recommandations du dialogue, c'est d'abord la relecture de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, ensuite aller vers les réformes institutionnelles et politiques. Et puis, on devait aussi faire en sorte que l'administration y retourne dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y en a beaucoup, surtout au nord, où l'administration n'est pas là, les services sociaux de base ne sont pas présents. Donc moi, je trouve que quand on essaie d'analyser globalement aujourd'hui les objectifs qui étaient assignés au gouvernement Boubou Cissé et au gouvernement issu de l'accord politique de gouvernance, on peut dire que le bilan est vraiment mitigé et qu'ils peuvent mieux faire pour le bien-être de nos concitoyens.
D'accord. Mamadou Diko, est-ce que vous partagez ces points de vue de M. Doumbia ?
Oui, en partie, oui.
Lesquels ne partagez-vous pas ?
Je partage l'analyse qui consiste à dire que le dialogue a eu lieu. Ça a été une bonne chose. Il a rappelé, et je m'en félicite, que le dialogue a abouti à des recommandations qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Il a parlé, il a raison, du redéploiement de l'administration. En définitive, ce que je note, c'est que ce dialogue avait un objectif principal, qui était l'organisation des élections législatives, qui ne nécessitait pas un dialogue. La loi qui avait prorogé le mandat des députés disait précisément qu'il fallait organiser les élections avant le 2 mai. Malheureusement, bon, il y a eu de la précipitation. Nous avons organisé des élections dans les conditions que vous savez, particulièrement désastreuses, qui ont conduit à toutes ces contestations.
Étaient-ce des élections crédibles?
Elles ne l'étaient pas, en vérité. C'était des élections tenues dans un contexte d'insécurité physique et sanitaire extraordinaire. Ceci a eu sans nul doute un impact sur le taux de participation, sur la mobilisation des citoyens. Vous avez vu, après les élections, il y a eu beaucoup de contestations. Le tour joué par la Cour constitutionnelle aussi n'a pas apaisé les choses. Bref, j'ai eu l'impression que le dialogue national inclusif, sur les quelques six fortes recommandations, il n'y en a qu'une seule qui a été mise en œuvre, dont l'objectif final est justement d'aller aux réformes institutionnelles, à la révision constitutionnelle. Alors que j'estime que ce n'est pas tellement aujourd'hui la priorité du pays. La priorité du pays, c'est de faire en sorte qu'il soit un pays stable, que l'administration soit partout, afin que, effectivement, les réformes nécessaires, indispensables, que nous appelons de tous nos voeux, soient. Aujourd'hui, il est incontestable que notre pays a besoin d'être réformé. Ne serait-ce que sur le plan de la gouvernance électorale. Les réformes par rapport aussi à notre système électoral. Il faut revoir. Tout le monde s'accorde à dire que le système aujourd'hui tel qu'il est ne permet pas la tenue d'élections apaisées.
Concernant ces élections, certains estiment que si ces élections n'ont pas été crédibles, transparentes, l'URD est complice en s'alliant au parti au pouvoir, notamment l'URPM.
L'URD n'a pas mission. La mission de l'URD, ce n'est pas d'organiser les élections, c'est d'y participer. Il appartient, et s'il y a échec, c'est le gouvernement de la République qui en assure l'entière responsabilité. C'est lui qui devrait assurer les conditions de sécurité nécessaires à la tenue de ces élections. C'est lui qui devait assurer les conditions de transparence nécessaires à la tenue de ces élections. S'il y a faille à ce niveau, on ne saurait faire porter la responsabilité à quiconque. C'est au gouvernement et au gouvernement seul d'assumer cette responsabilité.
Mais si l'URD n'a pas voulu participer à l'accord politique, au dialogue national inclusif, parce que selon l'URD, les conditions d'organisation et toutes les recommandations de l'URD n'ont pas été prises en compte, pourquoi l'URD est parti jusqu'à s'allier au parti au pouvoir qui organise ces élections?
Ce débat, je crois que vous faites le relais d'un débat qui empoisonne inutilement la vie publique.
Ce sont des auditeurs qui posent ces questions et qui veulent avoir des réponses par rapport à cela.
Les gens en font de l'exploitation qui n'en vaut pas, de mon point de vue, la peine.
Et donc, on va poser cette question à Maître Touré. Maître Touré, vous aurez la parole tout à l'heure. Maître Touré, pensez-vous que ces questions que se posent certains Maliens sont légitimes?
Oui. Bon, il y a beaucoup de questions que les Maliens se posent. Moi, je ne sais pas de quelles questions vous parlez.
Celle-ci, si concernant ces... Puisque M. Dicko a évoqué tout de suite l'organisation des élections qu'il juge non crédible et non transparente, certains Maliens se posent la question pourquoi l'URD est parti jusqu'à s'allier au parti au pouvoir à travers ces élections législatives-là.
Oui, moi je pense que c'est une question pertinente, mais vous avez coupé la parole à Dicko, il aurait pu être...
Il a répondu à cette question et je voulais que vous reveniez sur cela. Je vous ai laissé développer, vous avez dit que sur cela, vous n'avez pas jugé légitime. Maître Touré, à vous. Vous aurez tout de suite la parole pour développer.
Donc, moi je vais simplement revenir, comme vous m'adressez la question directement.
Oui.
Allô, vous m'entendez?
Allez-y.
Je pense qu'il faut qu'on se dise les choses de manière assez claire et objective. On a compris ces derniers temps qu'au sein de l'URD, il y a un véritable hiatus entre les élus, souvent, ou certaines personnes influentes, et la direction même du parti. Et ces éléments, ce hiatus maintenant est confirmé par beaucoup d'autres éléments. Avant la constitution des listes, ce qui a présidé à la constitution des listes, je pense que c'est quelque chose que tous les partis, en tout cas, ont presque vécu. Ils sont tous allés sur des listes hybrides au nom de ce qu'ils ont appelé à l'époque des réalités locales. Mais dans la réception et la perception de ce genre de phénomène, les citoyens ne se retrouvaient plus. Parce que dans l'imaginaire populaire, il y a des partis qui ne pouvaient jamais se retrouver sur la même liste. Mais pour des raisons, en tout cas, propres à chaque formation politique, elles ont pratiquement toutes fait ces alliances qui ont été qualifiées de contre-nature. Certains estimaient que ça viole la charte des partis politiques. Et moi, je pense sincèrement quand même que ça a quand même troublé et a contribué à fragiliser encore un peu plus les partis dans l'opinion publique. Les gens commencent à avoir une opinion beaucoup plus négative des partis dans ce schéma. Et l'après-élection a d'autant plus aggravé la chose que l'élection du président de l'Assemblée nationale a donné lieu quand même à des schémas qui, à mon avis, ont conforté le doute de ceux qui ne croyaient pas aux partis politiques, notamment le score de 140 députés sur à peu près 148 obtenus par le président actuel de l'Assemblée, qui est du RPM. Et donc, si on regarde les votes, on se rend compte que beaucoup d'autres partis politiques dits de l'opposition, certains même qui ont contesté son élection dans sa commune, les formations politiques ont eu à le soutenir. Donc, le Malien aujourd'hui pense sincèrement qu'il n'y a pas d'opposition ni de majorité, et cela est à juste raison. Et ce qui est d'autant plus grave dans cette situation, c'est que les partis politiques, également dans leur mission de formation, beaucoup ont mis en avant le fait qu'il y a eu des achats de conscience, que c'est des questions qui ne sont pas conformes aux valeurs. Et parlant de valeurs, les personnes qui se disent, moi j'ai discuté avec des personnes qui disent qu'à partir du moment où ils ont fait des listes hybrides contre nature, pourquoi nous on ne va pas prendre de l'argent? Parce que c'est devenu un jeu, c'est devenu une question de positionnement, il faut simplement trouver des arguments pour justifier. Donc ces élections en réalité ont contribué à ternir davantage l'image politique par ce jeu politique qui a été incompris. Cela est une réalité, n'est-ce pas, que tout le monde reconnaît. Pour revenir à l'URD, Dico le sait très bien. L'URD a fait un communiqué, je pense, la semaine passée pour dire qu'il avait donné, la direction avait donné des consignes fermes aux élus, mais qui n'ont pas respecté. Donc ça fait partie également de la vie d'un parti. C'est des aléas qui arrivent, il faut les reconnaître et les assumer. Et demander à la limite pardon aux militants pour ce genre de gestes plutôt que d'essayer de les justifier par d'autres raisons. Mais s'agissant de toujours le dialogue national inclusif, moi je vous disais tout à l'heure que si on veut évaluer et faire le bilan de ce dialogue, il y a deux méthodes. Soit on fait une gestion axée sur les activités en faisant un chapelet de tout ce qui a été réalisé, soit on fait une gestion axée sur les résultats en nous intéressant maintenant à l'efficience et à l'efficacité maintenant des activités qui ont été réalisées. En ce qui concerne les élections législatives, je l'ai dit tout à l'heure, déjà ça a terni l'image des partis politiques. Secondo, ça fragilise également aussi les institutions. Parce que lorsqu'on voit un président de l'Assemblée nationale qui a été élu par ses pairs, l'une des plus belles élections, et qui remercie le président de la République avec d'autres chefs de partis politiques, je pense qu'indirectement ou inconsciemment, on renforce l'idée que nous sommes dans un régime présidentiel de facto plutôt qu'un régime semi-présidentiel. Je m'explique. Le président de la République, en tout cas théoriquement, en tout cas même s'il est du parti majoritaire, nomme un premier ministre qui conduit la politique de l'action gouvernementale devant une assemblée qui contrôle cette action gouvernementale. À partir du moment où le président de la République nomme, si je peux me permettre l'expression, le président de l'Assemblée nationale, qui va être en charge de contrôler l'action gouvernementale d'un premier ministre nommé par le président de la République, il va sans dire également que ça pose des questions sur la nature réelle de notre régime. Rajouter à cela également que la nomination d'autres membres d'autres institutions telles que la Cour constitutionnelle, certains membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, nommés par le président de la République. Donc finalement, on se retrouve dans un schéma où des institutions se retrouvent avec des membres totalement nommés par le président de la République.
D'accord. Donc, si vous voyez merci Touré, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Monsieur Doumbia, est-ce que vous pensez que ces élections ont été libres et transparentes? Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'URD fait partie de l'opposition?
Moi, ce que je vais tout simplement dire, pour parler de ces élections, permettez-moi de penser à l'honorable Soumaïla Cissé, qui est aujourd'hui privé de sa famille, privé de sa liberté, parce que tout simplement, le gouvernement avait assuré tout le monde qu'il allait organiser les élections et qu'il allait sécuriser tous les candidats. Je pense à lui et dire que le parti également soutient l'URD dans cette douloureuse circonstance. Oui. Maintenant, pour revenir à la tenue des élections, je peux vous dire que ces élections législatives ont été les élections les plus contestées depuis que moi j'ai commencé à suivre la scène politique malienne. Oui. Parce que tout simplement, les voix qui sont sorties des urnes ont été, je pense, détournés par ceux qui doivent assurer la transparence et qui doivent dire le droit. Et par endroit, vous allez vous retrouver avec 10 000 voix d'écart que la Cour constitutionnelle se permet de changer. En commune 1 du district de Bamako, vous vous retrouvez avec la Cour qui écarte 3 quartiers, notamment 5 centres de vote, sur des arguments vraiment qui ne sont pas des arguments solides. Donc il y a eu des contestations dans beaucoup d'endroits, à Mopti, en commune 1, en commune 4, en commune 5, à Koro et beaucoup d'autres localités où vraiment les uns et les autres se sont dit qu'il y a une assemblée nationale sous la forme de Sénat. Certains ont été bien élus et certains ont été nommés. Parce que tout simplement, ils ne jugent pas de la légitimité populaire. Maintenant, pour ce qui est du statut de l'URD, ils se sont inscrits dans l'opposition. Mais à travers leur attitude, je pense qu'il y a une complicité entre l'opposition et la majorité. L'opposition qui reçoit quand même un fonds, 500 millions, pour s'opposer à la majorité et s'opposer à la politique du gouvernement, cette opposition s'allie avec le gouvernement à travers les alliances électorales, hein, et aussi à voter pour le candidat de la majorité présidentielle. On peut aussi dire que l'opposition a contribué à renforcer la majorité présidentielle. Parce que dans beaucoup d'endroits, l'opposition a contribué à l'élection d'un parti politique de la majorité. Donc ça veut dire que vous opposez à un programme du gouvernement, vous dites que le président de la République n'est pas bon et qu'il est en train de conduire le pays à l'abîme. Et à un moment donné, vous soutenez ce même gouvernement à avoir des députés, à avoir une majorité confortable. Donc ce qui a amené beaucoup de nos concitoyens à se poser la question de la légitimité même de la présence de l'Union pour la République et la démocratie dans l'opposition. Moi, ce que je peux tout simplement dire, de par aujourd'hui cette attitude, nos citoyens n'ont plus confiance aux politiques. Ils se disent que s'il s'agit de nos intérêts personnels, on se met ensemble, parce que je vous rappelle que lors du dialogue national inclusif, on a tout fait pour que l'URD vienne et qu'on échange sur le Mali, qu'on échange par rapport à la crise que connaît notre pays. L'opposition n'est pas venue. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts des uns et des autres, parce que l'opposition veut gagner des sièges, la majorité veut gagner des sièges, ils se mettent ensemble en ce moment. L'esprit même de s'opposer à la majorité présidentielle ont contribué à détruire aujourd'hui cet esprit-là. Donc moi, ce que je veux tout simplement dire, c'est que ça serve de leçon pour les prochaines élections. Parce qu'aujourd'hui, nos citoyens ne nous font plus confiance. Je vous donne juste l'exemple pratique. En commune 5 du district de Bamako, l'honorable Moussa Teminé est contesté par l'URD, l'ADP et l'ADEMA. Et au même moment où vous dites aux gens de sortir et dire que vous n'êtes pas d'accord, au même moment à l'Assemblée nationale, c'est l'URD, l'ADP et l'ADEMA qui votent pour le député dont la légitimité est contestée par leurs militants ou leur parti à la base. Donc vous voyez un peu comment est-ce que c'est difficile de lire un peu la ligne politique des uns et des autres. Donc,
êtes-vous d'accord avec Maître Touré qui évoque la possibilité que Moussa Tembiné soit nommé président de l'Assemblée nationale au lieu d'être élu?
Oui, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent cela. D'abord, la manière dont il a été élu. Dans les urnes, les résultats donnés par le gouvernement, ces résultats confirmés par l'administration territoriale ne lui donnaient pas gagnant. Premier élément. Deuxième élément, le parti au pouvoir, le RPM, le Rassemblement pour le Mali, avait officiellement donné le nom de son candidat, qui était l'honorable Diarasouba. Mais il a fallu une réunion avec le président de la République pour qu'il dise « Non, je ne veux pas de Diarasouba, mon candidat, c'est honorable Teminé. » Et ce qui a fait que la majorité était même divisée lors de la session parlementaire, et Teminé et Diarasouba a retiré sa candidature au profit de l'honorable de Moussa Teminé. Donc tous ces éléments montrent qu'il a été nommé, et quand il a été nommé, il a remercié le président de la République. Montesquieu dit que par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir législatif doit contrôler le pouvoir exécutif. Mais au même moment où ces deux pouvoirs doivent se contrôler, le président du législatif remercie le président de la République et dit qu'il doit tout à ce président de la République. Mais comment est-ce que le contrôle de l'action gouvernementale va se faire de manière transparente? Nous avons énormément de doutes sur cette question.
À vous, M. Dicko.
Oui, je voudrais revenir sur ce que les uns et les autres ont appelé Alliance contre nature et puis
l'élection du président de l'Assemblée
nationale. Le communiqué que l'URD a produit juste après tout ce bruit-là. Je pense que ceux qui parlent d'alliance contre nature ignorent peut-être les conditions dans lesquelles les candidatures sont portées. À l'URD, c'est la base qui décide de qui est candidat et avec qui il faut aller. Et je crois que c'est valable pour tous les autres partis. La preuve, le Yelema est allé avec le RPM. À ce que je sache, le Yelema est profondément opposé, sans être inscrit dans l'opposition que l'URD incarne. Le Yelema est fortement opposé à la gouvernance actuelle, au RPM donc. Les alliances, elles se font à la base. En tout cas, en ce qui concerne l'URD, il appartient aux acteurs à la base de définir avec qui ils peuvent aller pour gagner. C'est une alliance électorale. L'URD se veut une opposition républicaine. C'est pourquoi, vous verrez au cours de la législature dernière, elle a approuvé à l'unanimité beaucoup de projets de loi portés par le gouvernement. Nous estimons que chaque fois que, en âme et conscience, nous estimons que l'intérêt du pays est en cause, nous n'hésiterons pas à dire oui avec la majorité pour faire triompher certains projets. C'est ce qui a fait que, par rapport à Moussa Tembéné, l'URD a fait un communiqué. L'URD a dit qu'il reconnaît que le... Ça aussi c'est courageux, il faut l'admettre, que les députés n'ont pas suivi la consigne donnée par la direction. Mais cela, c'est un problème interne à l'URD. Nous allons le régler, nous l'avons même réglé. Nous avons rencontré nos élus, nous avons mis les points sur les i et le débat est clos. Ce débat est désormais derrière nous. Ce qui importe pour l'URD, ce n'est
tout
pas...
Tout cela est-il dû à l'absence de...
Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, quand on prenait la loi portant prorogation du mandat des députés, Soumaïla Cissé était là, la même consigne avait été donnée aux députés de voter nul contre la, par rapport à la prorogation. Mais les députés ont voté pour. Certains députés, à part deux, je crois Maudi Ndiaye paie à son nom, mais l'honorable Soumaïla Cissé ont été les deux. Ça, c'est la preuve de la bonne santé, de la vivacité de notre parti.
Nous sommes, une autre question. Si les députés de l'URD n'ont pas respecté les consignes du parti, de la direction du parti, est-ce qu'ils vont continuer à défendre les idéaux du parti?
Mais la preuve, ils sont à l'URD. Ils auraient dû partir. D'autres sont partis. Il y a des députés qui ont déjà déserté leur parti pour d'autres cieux. Les députés URD restent des députés URD, malgré la divergence de points de vue. Un parti comme l'URD, je l'ai dit et je le répète à l'envi, nous sommes un grand parti et c'est ce qui explique certaines velléités et de contradictions internes que les uns et les autres ne comprennent pas, mais qui sont normales dans un parti politique.
Et ils sont toujours de l'opposition.
Mais s'il n'y a pas de doute là-dessus, le jour où nous ne serons plus de l'opposition, nous allons aviser. Nous sommes dans l'opposition par conviction et nous l'avions dit à qui veut l'entendre. Le jour où nous quitterons, nous aviserons. Maintenant, vraiment, il faut qu'on sorte. Je crois que les enjeux du pays dépassent ce débat mesquin-là. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que notre système électoral a failli. Tous les problèmes que nous avons connus sont dus à ce système électoral. Nous avons des propositions concrètes à mettre sur la table. Nous avons partagé certaines d'entre elles avec certains acteurs de la classe politique. Maintenant, parlons du fond. C'est ce qui m'importe.
Et Soroba Gaoussou vous pose une question. Il dit, est-ce que l'accord politique a permis de baisser le climat social? Est-ce que l'accord politique a permis de baisser le taux d'insécurité au Mali?
L'accord politique a sans doute permis d'apaiser le climat politique et social. Mais je ne pense pas qu'il ait apaisé la crise sécuritaire. La preuve, le chef de file de l'opposition, qui quand même incarne quelque chose de fondamental pour notre démocratie, est aujourd'hui en captivité. Bien beaucoup d'autres. Il y a des zones entières du pays où l'administration est absente, les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc l'accord politique de gouvernance n'a pas permis de ramener la sécurité sur toutes les territoires. La preuve, le redéploiement dont le dialogue politique a demandé n'est toujours pas effectif. Les forces armées n'ont toujours pas occupé le pays. L'administration n'est toujours pas redéployée. Donc vraiment, c'est des problèmes réels qui se posent. Personne ne peut les contester. Mais le contexte actuel du pays commande qu'on sorte de certaines choses que j'appelle mesquineries, qui ne nous font pas avancer. Tous les partis politiques ont fait des alliances que les gens appellent alliances contre nature. J'ai rappelé le cas du Yelema. J'ai rappelé hier soir, à une autre occasion, le cas du parti Sadi, qui s'est allié avec l'ADEMA. Les alliances, c'est des alliances électorales. Elles se dictent à la base et elles s'arrêtent là.
Et concernant la crise scolaire, il y a M. Doumbia qui disait au début qu'il estime que la situation a évolué positivement quand on analyse 2018-2019. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'accord politique a changé quelque chose dans le domaine de l'éducation de positif?
Je ne le pense pas. Au contraire, il y a plus de crispation, de cristallisation, de mécontentement aujourd'hui qu'il y en avait en 2019. Donc j'estime que sur ce plan, le gouvernement a échoué. Sur le plan de la crise scolaire, le gouvernement n'a pas abouti à des résultats. C'est incontestable.
Maître Touré, dans la gestion de la crise scolaire, pensez-vous, comme M. Dicko, que le gouvernement a échoué dans cette gestion?
Oui, mais c'est évident que la crise scolaire, c'est l'une des grosses épines, en tout cas sur le climat social, depuis bien avant l'accord politique de gouvernance. On se rend compte quand même que la crise a perduré, elle a pris des proportions inattendues. Les positions se sont crispées. Souvent, on a pensé que c'était des questions d'ego ou d'orgueil. D'un côté, on estimait que le Premier ministre était dans une forme de démonstration d'ego. De l'autre côté, on a estimé que les enseignants étaient dans une forme d'exagération du tout ou du rien. Et ce qui est certain et qu'il faut reconnaître simplement, c'est que l'approche qui a été envisagée des deux côtés, parce que l'échec de la crise sociale, ce n'est pas simplement le fait du gouvernement. C'est également un fait aussi des syndicats, parce qu'un dialogue social, il doit réussir, il ne peut réussir que lorsque toutes les parties y mettent du sien. Donc s'il y a échec de la crise scolaire, je pense que c'est un échec collectif qui ne saurait être à la seule charge du gouvernement, parce qu'objectivement, le gouvernement a aussi des limites, même s'il y a des revendications de l'autre côté qui sont justifiées et légitimes. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que les revendications sont légitimes. Mais à la fin, on est arrivé à un moment où on était beaucoup plus sur des questions de tempérament, de mise en œuvre, de report, plutôt que sur le fondement même de la revendication. Donc pour moi, c'était un échec pour les parties prenantes au dialogue social en ce qui concerne la crise scolaire. Je ne blâme pas simplement le gouvernement sur ce point-là.
Et concernant la crise sécuritaire?
Bon, sur la crise sécuritaire, moi, je pense déjà, comme je vous l'ai dit au début de mes propos, qu'il y a des événements, il y a des activités qui ont été évoquées dans l'accord politique de gouvernance, mais qui dépassent largement la compétence des acteurs de l'accord politique de gouvernance. La question sécuritaire, elle est assez sensible. Elle ne peut pas être gérée de manière politique, surtout à travers un accord politique de gouvernance. Les questions sécuritaires dans les pays, en tout cas normalement constitués, c'est les militaires qui pilotent pratiquement les hommes politiques, en tout cas ceux qui sont au règne du pouvoir. Mais ici, on ne peut pas venir à travers un dialogue politique dire qu'on va trouver une solution sécuritaire à une crise qui relève d'un domaine dans lequel nous n'avons pas forcément des compétences. Parce que l'un des problèmes que nous avons également, c'est que nous abordons les questions de défense et de sécurité de manière assez profane, avec des certitudes, sans pour autant connaître ce domaine qui est assez complexe et très, très difficile à comprendre. Mais le point positif sur ce plan-là, qui n'est pas perceptible peut-être à première vue, c'est simplement ce qu'on peut appeler le réarmement moral des militaires. Parce que la venue de Dahiru Dembélé, un homme qui est perçu en tout cas dans l'opinion des hommes des rangs comme étant quelqu'un de légitime, en qui il peut faire confiance, je pense que ça a amené un regain de confiance au niveau de notre armée nationale, parce qu'une armée ne peut pas se battre normalement et convenablement si le moral n'est pas là. Donc sur le plan sécuritaire, l'une des plus grandes réussites, pour moi, c'est vraiment le réarmement moral qu'a insufflé la venue pratiquement de Dahiru Dembélé à la tête de ce département. De l'autre côté également, on a vu beaucoup de scandales qui ont éclaté, et qui émoustille en quelque sorte ce regain en tout cas de confiance et de morale à la hausse. Les scandales financiers au niveau du monde militaire, vraiment c'est des choses qui vraiment ont permis de déséquilibrer un peu ce que je viens de décrire comme étant avantage par rapport à la venue de Dahiru Dembélé à la tête de ce département-là.
Okay. Amidou, sur Facebook, il y a Mamadou Daba Diawara et Ousmane Poudjougo qui se demandent pourquoi Boubou Cissé n'a pas fait sa déclaration de politique générale. Est-ce que cet accord politique a remplacé sa déclaration de politique générale?
Moi, je me pose réellement la même question, parce que ce n'est pas du tout normal qu'après une année, le Premier ministre ne soit pas parvenu à faire sa déclaration de politique générale. À un moment donné, il disait qu'il allait attendre la fin du dialogue national inclusif pour à peu près prendre les recommandations de ce dialogue pour faire sa déclaration de politique générale. Mais force est de constater aujourd'hui qu'encore, il n'est pas parvenu à le faire. Moi, je trouve que c'est à déplorer. Ce n'est pas un bon exemple qu'il donne là, parce que je ne me souviens pas qu'il y ait eu un Premier ministre au Mali qui est passé plus d'une année sans pour autant faire sa déclaration de politique générale. Donc sur ce plan, je pense que c'est un échec.
Et y a-t-il des raisons qui peuvent justifier
Il n'y a aucune raison. La seule raison qu'il avait évoquée, c'était tout simplement qu'il attendait la fin du dialogue et qu'il allait écouter les Maliens pour prendre en compte leurs préoccupations dans sa déclaration de politique générale. Et le dialogue, on a fini avec le dialogue il y a plusieurs mois, mais il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qui explique ce retard. Lui seul peut savoir pourquoi il ne l'a pas fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bon exemple qu'il donne. Nous allons bientôt, je pense, il va y avoir un nouveau gouvernement, parce que le dialogue demande un gouvernement resserré de 25 membres ou plus. Donc, j'espère que s'il est maintenu ou s'il y a un nouveau Premier ministre, ce dernier va tout faire pour quand même faire sa déclaration de politique générale, parce que le gouvernement doit s'engager devant l'Assemblée nationale. Donc moi, ce que je veux tout simplement dire, c'est qu'il revoit cet aspect de la chose. Maintenant, je voulais revenir sur un aspect important évoqué par Tico. Quand on parle des alliances contre nature, il faudrait que nous, partis politiques, on le comprenne. Ce ne sont pas des mesquineries, mais c'est des questions de forme qu'on doit... C'est des constats que nous faisons pour que, dans le fond, on puisse traiter. Aujourd'hui, on parle d'alliances au niveau local. Mais les partis politiques ont le plein droit de donner des directives. L'URD peut donner des directives au niveau de son bureau national. OK, à Sigasso, faites des alliances avec tout le monde, mais ne faites pas d'alliance avec le RPM. Ces directives peuvent être données au niveau local.
Est-ce qu'il y a éléments à donner des directives pour toutes les alliances?
Nous, on a donné des directives, mais nous, à la différence de l'URD, nous ne sommes pas ni de l'opposition, ni de la majorité. Donc nous avons aujourd'hui cette facilité de pouvoir... voir par endroit là où le candidat du RPM est bon, et là où le candidat de l'URD est bon, parce que nous ne sommes pas opposés officiellement au pouvoir. Nous ne sommes pas aussi avec la majorité présidentielle. Donc, si nous nous allions et avec l'URD et avec le RPM, on ne peut pas le prendre comme une alliance contre nature. Mais par contre, eux, c'est une opposition républicaine, c'est une opposition qui bénéficie d'un fonds en tant que chef de file de l'opposition pour s'opposer.
Tous les partis politiques bénéficient d'un fonds.
Non, pour eux, le statut de chef de file de l'opposition, il y a les 500 millions pour s'opposer, tout simplement. Parce que s'ils n'étaient pas de l'opposition, ils n'allaient pas percevoir un peu ce fonds. Donc moi, ce que tout simplement je veux dire, c'est quand même une occasion pour nous de faire des réformes majeures dans ce domaine-là. Et que dans la charte des partis politiques ou même dans la loi électorale, qu'on puisse pas, on puisse mettre des éléments qui peuvent empêcher un parti de l'opposition
certaines
de faire
alliances
avec la majorité.
Les élections. Alors aujourd'hui, vous estimez que le bilan est mitigé, mais vous saluez quand même l'initiative de cet accord politique. Est-ce que si vous deviez retourner en arrière, l'URD allait signer cet accord politique?
En l'état, l'URD ne l'aurait pas signé. L'URD, encore une fois, je le rappelle,
malgré ces avancées que vous
initiateur signalez, est initiateur de l'accord. Mais c'est en... fin de compte que cet accord a été vidé de sa substance, et c'est pourquoi l'URD, ne se reconnaissant plus là-dedans, a décidé de ne pas le signer. L'URD reste disponible pour le Mali. Si il est prêt, elle est prête à s'engager dans tout cadre qui puisse permettre le rayonnement du Mali. N'en doutez point.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait par rapport à la résolution de toutes ces crises que vit le pays?
Je pense qu'il appartient aux gouvernants de prendre les bonnes initiatives. L'URD a des propositions par rapport, je l'ai rappelé ici, aux réformes institutionnelles et politiques. Je crois qu'elle s'est retirée pendant quelques jours pour produire un document qui est mis à la disposition de presque l'ensemble de la classe politique. Je crois que le moment venu, nous sommes prêts à rediscuter avec tous les acteurs toutes ces propositions-là. Il appartient encore une fois aux gouvernants de prendre les initiatives.
Est-ce que l'URD, à travers notamment ses acteurs, ses députés à l'Assemblée nationale, va s'assurer que les bonnes mesures soient prises
pour... Vous pouvez compter sur l'URD pour s'associer à toute initiative. L'URD, son opposition, elle n'est pas systématique. Elle est une opposition républicaine et constructive. De ce point de vue-là, elle est prête à accompagner toute initiative heureuse qui concourt au mieux-être des Maliens.
D'accord. Rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qui doit être fait tout de suite?
Moi, je pense que nous l'avons toujours dit depuis l'élection du président de la République, ce qui est important aujourd'hui au Mali, c'est le rassemblement. Le président de la République doit faire tout pour rassembler les Maliens autour de ce que j'appelle un SMIC politique, un minimum d'accord politique pour que les uns et les autres puissent aider éventuellement le président de la République à sortir le pays de la crise. Si lui-même il le veut.
D'accord. Maître Touré, vous, quelles sont vos recommandations pour la résolution des crises que vit le pays en ce moment?
Moi, je pense que ma principale recommandation va porter sur la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif. Mais avant la mise en œuvre, il faut inverser l'ordre, en tout cas, de mise en œuvre des principes qui ont des recommandations. Parce que quand on regarde les quatre recommandations, l'alignement de ces quatre recommandations nous donne l'impression que ça ne peut pas aboutir positivement. Les élections ont été organisées, recommandation 1. Après, il s'agit de faire la révision constitutionnelle, le retour de l'administration des services sociaux de base et la relecture de l'accord. Et lorsqu'on regarde maintenant la quatrième et la deuxième résolution, c'est-à-dire la révision de l'accord ainsi que la révision constitutionnelle, on se rend compte que la révision est impulsée, en tout cas la raison principale de la révision, c'est l'accord d'Alger. Tant qu'on ne modifie pas l'accord d'Alger, on ne pourra pas parler objectivement de révision constitutionnelle.
Merci
beaucoup.
À suivre
la résolution dans son déroulé, on révise. L'administration retourne, après maintenant on révise l'accord.
Merci,
donc ça,
maître Abdourahmane Touré, le temps nous fait défaut. Vous êtes avocat, Mamadou Diko du parti URD et Amidou Doumbia du parti ELEMA. Le thème de ce grand dialogue était un an de l'accord politique au Mali. Quel bilan? À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Peting Diarra, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoundi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.